les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
J'ai été très surprise en arrivant ici, vraiment. Hein. Non seulement il y en a beaucoup de variétés, mais en plus ils sont très très bons. Quoi. On a quand même du fromage, vous voulez goûter le fromage de brebis bleu? Très bon.
Irlandais.
Irlandais.
On va déguster sur France Inter.
We still are associated with
nous sommes encore associés à la pomme de terre. En 1845, 3 millions de personnes ont survécu à la famine.
They ate potatoes in the morning. Afternoon, dinner.
Ils mangeaient des pommes de terre le matin, l'après-midi, le soir. Une famille mangeait entre 5 et 6 kilos de pommes de terre chaque jour et ils n'avaient rien d'autre.
On va déguster Irish food sur France Inter.
Good morning everybody et bienvenue sur le plateau dont on va déguster dans 6 jours, le 17 mars, on célèbre la Saint-Patrick, la fête nationale des Irlandais. La Stout va couler à flot et ce d'autant plus que je le disais, l'équipe d'Irlande de rugby rencontrera l'Angleterre. On va entonner des Celtic Sounds dans tous les Irish pubs du monde et on va déguster, n'échappe pas à cette vague verte. On cuisine l'Irlande, ce beau pays de l'Union Européenne avec nos deux invités EES. Bernadette Byrne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes irlandaise, installée depuis plus de 30 ans en France. Vous travaillez pour l'Irish Food Board.
Oui, c'est ça.
Le Board BIA. C'est ça. Le Board BIA, c'est une agence de promotion alimentaire. Ça dépend du gouvernement irlandais. On va parler avec vous viande, fromage, produits de la mer. Et on va même cuisiner votre recette de la Saint-Patrick. Vous pouvez nous la dévoiler?
Oui, c'est le bœuf braisé à la Guinness.
Et ben oui, évidemment, la Guinness, cette fameuse bière brune irlandaise, emblème de ce pays. On va voir ça avec vous. Alice Quillet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez du sang irlandais, vous cuisinez irlandais, vous avez travaillé 4 ans en Irlande et vous êtes mariée à un Irlandais. Ça commence à faire beaucoup sur votre dossier. Le cuisinier irlandais, c'est Anselm Blaney, qu'on salue, qui est d'ailleurs avec nous en notre compagnie dans le studio de France Inter. Avec votre mari et votre acolyte Anna Trattles, vous avez fondé Ten Bells Bread, une formidable enseigne dont vous nous rappelez l'adresse?
C'est 17 rue Breguet et 10 rue de la Grange-Aubel, il y en a deux.
C'est ça, on est dans le 11e arrondissement et 10e arrondissement.
Voilà, c'est ça, pardon.
Et on vous promet notamment, entre autres recettes, chers auditeurs, un tour de magie boulanger que pratiquent les Irlandais chez eux. Un pain sans levure et sans levain, simple et rapide, ça s'appelle?
Le Irish Soda Bread.
Le Irish Soda Bread avec un super accent, le Soda Bread avec un accent bien français. L'Irlande gourmande, nous allons également la découvrir grâce à notre reporter Stéphane Combe qui est allé s'en mettre plein la panse de Cork jusqu'à Dublin. Vous découvrirez ces reportages au fil de cette émission. Mes chroniqueurs, queuses, aujourd'hui il y a d'abord Esther El Payani, bonjour.
Bonjour.
Auteur culinaire, critique, journaliste gastronomique à Télérama, fidèle de ce micro. Et aujourd'hui,
on va fêter l'anniversaire de la plus grande dame de la cuisine irlandaise, j'ai nommé Myrtle Allen.
Ah, réputation mondiale pour cette formidable cuisinière irlandaise, ou peut-être assez méconnue justement en France. Vous allez nous faire découvrir dans un instant son destin. Jérôme Gagnès, bonjour.
Bonjour à tous.
Créateur de Vers le vin, notre chroniqueur vin est plutôt mis en bière, pour reprendre un bon jeu de mots d'Esther El Payani dans la préparation de cette émission. Vous vous tournez vers la bière?
Oui, résolument.
C'est ça.
Résolument, avec une belle rousse et une belle brune.
Très bien, bah écoutez, on va voir ça avec vous. En régie et en direct, Laurent Thomas, Maxime Ingrand, Nadia Chougui, voyage au cœur des marmites irlandaises. Embarquement immédiat.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Et si les Français étaient amoureux de l'Irlande, vous en pensez quoi, Bernadette?
Moi, je pense que oui. Hein. Je pense qu'on a beaucoup d'amour, de partage entre les Irlandais et la France et depuis des siècles. Hein.
Vous savez combien de Français vont en Irlande chaque année?
Ah, question piège, mais je pense 500 000.
Exactement, un très gros demi-million. Mais la très bonne nouvelle, c'est que ce chiffre augmente chaque année. Plus 3,5% en 2017, preuve que les Français ont envie de découvrir évidemment la vert terrain à travers ces landes grasses, ces côtes déchiquetées, ces lacs. Et peut-être bien sa cuisine, il se pourrait même que ses produits du terroir deviennent bientôt un but de voyage. Je vous propose, pour commencer notre immersion dans la cuisine irlandaise, une petite balade dans le plus vieux marché d'Irlande, et qui est d'ailleurs le seul marché couvert du pays. Il s'appelle l'English Market. Vous en avez entendu parler?
Ah oui.
Évidemment,
oui,
il est à Cork. Hein,
il est à Cork.
Au sud-ouest de l'île, notre reporter Stéphane Combe est allé s'y balader en compagnie de la restauratrice Kay Hart et de Fanny Lennart-Cohallen. Cohallen, excusez-moi, c'est une Française qui vend, devinez quoi, de délicieux fromages irlandais.
Cet honorable gentleman que je vous présente maintenant est connu car c'est lui qui a présenté le marché anglais de la ville de Cork à la reine Elizabeth quand elle est venue.
You have to understand we were a colonized country and the British were here.
Vous devez comprendre que nous avons été un pays colonisé. Les Britanniques étaient installés ici. Ils étaient plus particulièrement dans le centre de la ville. Donc ce marché était au service des colons britanniques et sa fonction était d'exporter les denrées alimentaires vers les troupes britanniques coloniales à travers le monde. Et ce marché est devenu célèbre car les aliments étaient peu chers et de bonne qualité. Ils permettaient de nourrir les soldats britanniques. C'est le seul marché couvert en Irlande.
Là, vous me présentez du fromage. Cheese.
Vous voulez savoir les fromages irlandais que je parle le plus ?
Bon, je vois du brie,
mais c'est... On a juste une petite section de fromage français ici, parce qu'il y a beaucoup de Français à Cork aussi, et on essaye de les amener vers le fromage irlandais, mais ils aiment bien avoir leur standard. Et ensuite, à partir d'ici, là, à partir des bris, des fromages irlandais.
En fait, les fromages irlandais de votre étalage représentent quasiment les deux tiers de
l'étalage. Oh oui, largement, oui. Ils ont tous leurs particularités. Alors, le problème en Irlande, mais ça, c'est plutôt au niveau législatif, ils ont du mal à venir vers le lait cru, mais ça vient. On pense qu'il n'y a que les cheddar, ce qu'on trouve dans les supermarchés, mais il y a une variété. C'est des tout petits artisans qui font des choses, des fois bien mieux que les Français, moi, je trouve. Celui-là, par exemple, s'appelle le Clonmore. C'est un fromage de chèvre. Je peux vous le faire goûter, si vous voulez. Il est assez fort, mais depuis que je fais goûter aux gens... Ce fromager nous en vend deux fois plus et il me demande qu'est-ce qui se passe, mais il faut les goûter quoi, les gens ne connaissent pas.
Alors, je goûte.
Mais il est assez fort, mais bon, vous êtes français, ça devrait aller.
Non, mais ce qui est surprenant.
Do you know this one, Clonmore, from Charleville, I love it.
Il n'a rien à envier aux chèvres français.
Completely. Et vous voyez les moutons sur les montagnes, ils sont tout seuls, vous demandez comment ils font, mais la première fois que je suis allée là-bas, je voulais être réincarnée en mouton dans une autre vie, vraiment. On a quand même du fromage. Vous voulez goûter le fromage de brebis bleu ? Très bon. Aussi.
Irlandais.
Le crozier.
Très bon.
J'essaye toujours de faire venir les Français à ça parce que c'est. Et même les Irlandais veulent du fromage français parce que pour eux c'est un peu snob, vous voyez ? Et je leur dis, mais regardez ce que vous avez. Et ils le goûtent sans vraiment le savoir eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire ? Et comme Cork est un port, vraiment tout au bord de la mer, ils vont être beaucoup plus ouverts à d'autres choses et à d'autres goûts, quoi. Mais là, vraiment, il y a une palette. Là, pour un restaurateur, ça serait, c'est ideal. Hein,
Un époustouflant éventail de fromages irlandais, dites cheese, sur l'étal de la française Fanny, à l'English Market. On est à Cork, hein, très très jolie ville au sud-ouest de l'Irlande. Est-ce que vous confirmez que l'Irlande, on va peut-être pas dire que c'est l'autre pays du fromage, mais que c'est un grand pays de fromage, Bernadette Byrne?
Je pense, oui, absolument, parce qu'en fait, quand vous regardez l'Irlande, c'est une paradis déjà pour la production agricole. On a tout ce qu'il faut, on a des pâturages, c'est 80% des terres agricoles sont des pâturages. Mm-hmm. On a un arrosage automatique.
qui rend l'herbe verte et grasse.
L'herbe verte et grasse.
Comme quoi, l'herbe peut être parfois plus verte ailleurs. Hein.
Et à partir de là, le lait est très bon et la viande est excellente. Donc
vous évoquez quels animaux? Parce qu'on fait du fromage, évidemment, de vaches, de brebis, mais également de chèvres. Plus étonnant.
Oui, voilà, exactement. Mais l'essentiel, c'était au départ, c'était bien sûr le lait de vache. Et maintenant, de plus en plus des brebis. Et d'ailleurs, le Cashelbleu que je pense que la personne a parlé à Cork.
Il s'agit donc de ce fromage bleu.
Fromage bleu, oui. Voilà, fromage de vache. Existe aussi en format brebis qui s'appelle, oui, le Crozier Blue.
Oui.
Et même dernièrement, ils ont maintenant sorti un Cashelbleu bio qui a eu le coup de cœur au Salon du fromage à Paris il y a 10 jours.
Formidable. Et on l'a sur ce plateau. Il passe pas inaperçu. Hein. Il est même assez odorant, si je me trompe pas. Enfin, en même temps, on en a tellement qu'on ne sait pas lequel gagne au concours des odeurs les plus fortes. Vous l'avez goûté, comment vous le prononcez?
Cashelbleu.
Cashelbleu.
Cashelbleu, oui.
Vous l'avez goûté ou pas, Jérôme Gagnaise?
Oui, je l'ai goûté.
Alors
c'est une texture assez fondante.
Décrivez-le.
C'est un fromage qui est entouré d'une croûte totalement noire.
Oui.
Et qui est marbré en réalité.
C'est-à-dire qu'on imagine de la marqueterie.
Oui, exactement. On imagine que le fromage a été découpé en petits morceaux puis ensuite baigné dans de la Guinness, j'imagine.
C'est bien celui-là dont il s'agit ?
Non, voilà. On est sur le bleu.
Ah, pardon.
Oui, alors je dis des âneries. Grosse confusion sur le plateau de fromage.
Il voit déjà double.
J'ai pourtant pas encore commencé à boire de la bière. Non, alors le bleu, il est magnifique. Il est puissant, il est fin, il est assez gras. C'est un peu texturé, un petit peu très légèrement granuleux. C'est un excellent fromage. Ça.
Et celui
excellent
qu'évoquait Jérôme Gagnaise avec cette espèce justement de peau goudronneuse.
Oui.
La chair est très intrigante d'ailleurs.
Oui. C'est en fait c'est le Carls à la bière brune, enfin la Guinness aussi. Oui. C'est un cheddar.
D'accord.
Qui a affiné 8 mois et donc effectivement qui macère dans de la Guinness.
Oui.
Mais cette famille-là, leur spécialité, c'est justement d'essayer tout type de finition sur les différents cheddar, y compris dernièrement les RL et du gin.
Donc
en fait, c'est vraiment pas de tabou en Irlande pour les fromages. On essaie tout.
Alice, qui est votre relation aux Irish Cheeses, parce que la réglementation irlandaise a été pendant longtemps assez hygiéniste, mais visiblement le lait cru revient en force et on assiste à l'émergence de fromages fermiers au raw milk, au lait cru. Vous confirmez ?
Oui, je confirme. Et beaucoup de jeunes, en fait, se mettent à faire du fromage en Irlande de manière artisanale.
Oui.
Et j'en ai travaillé avec des fromages irlandais pendant 6 ans et vraiment, j'adore ça. C'est extrêmement varié. Il y a un peu de tout. Et c'est vraiment, vraiment délicieux.
Si vous aviez un petit préféré, ce serait quoi? Spontanément comme ça.
Le Adrahan.
Le?
Adrahan.
Oui. Ouh là là.
Qui ressemble un peu à un pont l'évêque. C'est une croûte lavée, orange. Il est très, très fort.
Fromage de vache?
Fromage de vache que j'aime beaucoup.
Ça se fait de quel côté?
Je sais pas.
D'accord, ça se fait en Irlande.
Ça se fait en Irlande.
Comme il y a des pâturages partout. Est-ce que les Irlandais s'aventureraient à un camembert à l'irlandaise? Je veux parler d'une croûte fleurie, façon un peu brie, camembert,
oui,
coulommiers.
Oui, tout à fait. Oui, le coulis, en fait, c'est un genre de brie irlandaise. On trouve également. Maintenant, on commence à le trouver aussi dans des fromageries en France.
Et si on accompagnait tous ces fromages d'un pain, mais si possible d'un pain très simple à faire, voire d'un pain que certains Irlandais qualifient de pain pour les nuls. C'est-à-dire un pain qu'on peut faire sans complexe quand on n'est pas boulanger. C'est quelque chose de très populaire dans toutes les familles irlandaises. C'est le soda bread, c'est ça, Alice Quillet ?
Voilà, c'est ça exactement.
Vous l'avez apporté d'ailleurs ?
J'en ai apporté, je l'ai fait ce matin.
Oui.
C'est un pain que je fais régulièrement quand j'ai pas de pain chez moi, ce qui est un peu bizarre pour une boulangère,
oui.
Mais ça arrive. Que je fais souvent avec mes enfants parce que c'est vraiment extrêmement facile. Il n'y a que 5 ingrédients. C'est de la farine. Bon, après, chacun choisit la farine qu'il veut utiliser. Parce que ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que chaque famille a sa recette de soda bread.
Oui.
Donc, chaque soda bread est différent. Du bicarbonate de soude, du sel et du buttermilk, qui est une sorte de lait ribot, un lait fermenté.
Oui.
Voilà. Et moi, souvent, j'ai pas de lait ribot. J'utilise juste du très bon lait frais avec un peu de jus de citron pour le faire cailler.
Pour le faire cailler. En combien de temps?
En 3-4 minutes, ça caille. Et c'est la réaction, en fait, du bicarbonate de soude avec ce lait fermenté ou ce lait légèrement caillé qui fait lever la pâte du soda bread.
C'est ça. L'agent de fermentation, donc bicarbonate de soude, voilà quelque chose de très original. Et surtout, c'est très rapide, en fait.
C'est très rapide. Il n'y a aucun pétrissage. On mélange les ingrédients. On fait une boule. On fait une croix sur la boule. Je sais pas si vous savez, mais c'est pour laisser sortir les fées. C'est un peu la tradition irlandaise. On dit aussi que ça représente les 4 comtés irlandais.
Oui.
Mais si on ne laissait pas sortir les fées, ça ferait rater en fait le pain. Voilà, donc on fait cette croix et on fait cuire pendant 30 minutes à peu près.
Bravo, et ça donne quelle sensation en bouche, Esther El-Payani, vous qui êtes en train de le grignoter?
C'est tout doux, il y a une croûte quand même qui est présente. On s'attend pas avec quelque chose sans pétrissage, il y a quand même une bonne croûte. J'aime bien le côté, on le coupe en 4. Il est déjà prédécoupé, un peu comme un melon. On se dit, si on est 4 à la maison, chacun a son morceau pour la journée.
Absolument.
Et on sent pas du tout l'acidité du bicarbonate. On se dit, ça va avoir un côté acide. Pas du tout. C'est bon parce qu'il est encore tiède.
Ouais, vous nous l'avez préparé il y a pas longtemps, Alice.
Oui, voilà. Et puis c'est vraiment, faut le manger tout de suite.
On dit souvent en Irlande qu'on peut même faire le soda bread entre le moment où l'on apprend qu'on a des invités pour le thé et le moment où ils arrivent. Ce qui est assez pratique. Soda bread, la recette évidemment toute simple, qui tient en quelques lignes. Signé Alice Quillet sur franceinter.fr à la page On va déguster. Définissons en quelques mots la cuisine irlandaise. Les mauvaises langues diraient en quelques mots potato, potato, potato.
On ne parle pas vraiment d'une gastronomie irlandaise. C'est vrai, en Irlande, c'est surtout une question d'ingrédients. Tout est axé sur les ingrédients, que ce soit la viande, les produits de la mer, le fromage, etc. Et on fait aussi des plats de partage, partage et convivialité. Je pense que les Irlandais, ils sont connus un petit peu aussi pour cela. Et donc, c'est là où on revient sur les Irish stew, sur tout ce qui est mijoté, voilà, ce type de...
Mais la pomme de terre est au centre du
jeu. Mais la pomme de terre est au centre du jeu à un tel point que la pomme de terre, pour nous, fait pas partie de légumes. Il y a les légumes et il y a la pomme de terre.
C'est ça.
Voilà.
Et elle est tellement au centre de l'alimentation des Irlandais qu'on rappelle un triste épisode historique lorsqu'elle vint à manquer pendant la Grande Famille, que l'Irlande a vécu au 19e siècle, hein, 1845.
C'est en 1845 que ça a commencé, oui.
Il y a quand même eu 1,5 million de morts.
Oui, et au moins 2,5 millions de personnes aussi sur les 6 années qui ont émigré vers les États-Unis, le Canada et l'Australie.
Très bien. Il y a évidemment des potatoes et plus, si affinité d'ailleurs, dans le plat national irlandais. Je veux parler, vous l'avez cité, Bernadette Byrne, du Irish stew, littéralement le ragoût irlandais, saveur et secret de l'Irish stew. Juste après, The Pogues de Sally McLennan. C'est choisi par notre ami Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
Jimmy didn't like his place in this world of ours, where the elephant man brought storm on his neck, and he had too many pairs. So I sat to see the grieving of the people that I'm leaving, and he took the road for God knows in the morning. We walked him to the station in the rain, we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song of times long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me and going far away. I'd like to think of me returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. The years went by and twice the change, I grew to be a man. I learned to love the virtues of Sir Sally McLennan. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn. I ended up a barman in the morning. I pried the pump and took the hump and watered whiskey down. I took the booze and horses to the men and drank the brown. I heard the sight of Jimmy's making money far away. Some people left for heaven without warning. We walked him to the station in the rain, we kissed him as we put him on the train, and we sang them a song of times long gone, though we knew that we'd be seeing them again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer out of Sally McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people may have scared the cop, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain, and we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song of times long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm gone far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan.
Donc là, nous sommes à O'Donoghue's Family Butchers, donc c'est un boucher à Bantry, qui est une ville entre le Mizzen Peninsula et Beara Peninsula dans le West Cork.
C'est-à-dire que là, on se trouve au sud-ouest
Absolument.
De l'Irlande. Hein.
Ouest du sud-ouest, oui, on est très 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 à l'ouest. Et dans le West Cork, où il y a une culture de nourriture et de food qui est fabuleuse depuis toujours.
Notre reporter Stéphane Combe a eu la chance de rencontrer celle qui fut une star de la cuisine en France à partir des années 2000. Elle a écrit de nombreux best-sellers. Certains d'entre vous se souviennent peut-être, évidemment, de...
Trish Desaigne.
Trish Desaigne, absolument, qui est repartie vivre dans son Irlande natale. Et elle nous fait le plaisir de nous préparer ce fameux plat national. Est-ce que d'ailleurs on peut le considérer comme un plat national, la Irish stew ?
Oui, je pense, oui. Ouais.
Toutes les grand-mères le font ?
Oui.
Bon... Eh bien, on pourrait le comparer à peut-être un avarin d'agneau. Enfin, on va voir ça en tous les cas. La première étape, c'est une visite dans sa boucherie préférée, chez Paddy à Bantry, un village en bord de mer dans la région de Cork.
Hi there, how are you doing?
How are you doing?
I'm well, thank you. It's my friend from France Inter.
Oh, yeah.
Hello, bonjour.
I'd like ingredients for an Irish stew.
Perfect. You kill all raw meat.
You kill your own donkey.
And we hang it for lamb for 2 weeks and beef maybe a month.
Donc ici, ils tuent leur propre viande et le mouton est gardé 2 mois pour le goût.
We kill pigs as well, but they don't need any hanging. They're like chicken. The fresher you sell them, the better it is.
So today, really, what I'm getting is hogget.
Hogget.
A hogget, yeah. C'est ce que je veux. Le hogget, yeah. c'est l'agneau adolescent.
It's voilà, donc 10 il a 10 months, you know, yeah. from you know.
10 yeah. mois. Il a 10 yeah. mois d'âge. Moi, je l'aime bien ce stade-là parce qu'il est goûteux. C'est plus fort. C'est un peu pas faisandé, mais voilà, il y a un bon goût, bon goût de terroir. Could you cut me some neck? Je voudrais le collier. C'est ce qu'il y a de plus traditionnel. With the bone, please, avec l'os.
Okay, so this is neck of lamb, then.
Donc c'est le collier. Il enlève un grand couche de graisse.
That's lemon also. Yeah. But that's without the bone. So will I slice a little bit off?
Donc il va être coupé en rondelles. Tu vas le trancher.
Comme ça, on a l'os aussi. Et le goût, vous voyez comme c'est... Dans le temps, en revanche, on n'élevait pas le mouton pour sa viande. Anciennement, ce que l'on avait, c'était un mouton pour sa laine. Et du coup, on ne mangeait pas d'agneau comme on mange aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est élevé pour sa viande. Et comme disait Paddy, on le tue au fur et à mesure de l'année.
Alors, ce qui est amusant, c'est que, en fin de compte, cette boucherie vend également, vend également les carottes.
J'adore ici parce que vraiment, là, vous avez le fond de cuisine irlandaise devant vos yeux. Donc, à droite, les œufs, le bacon, le porc, toutes les coupes de bacon que l'on peut imaginer. On a quelques petits champignons, on a des poireaux, et puis devant, donc, tous les légumes pour notre stew. Carottes et aussi des panais, mais ça fait un peu riche les panais, ça fait un peu luxe, un peu exotique.
Des pommes de terre.
Des pommes de terre et on a trois sortes d'oignons. Et du chou.
Génial. Connaissiez-vous ce boucher à Bantry dans ce petit village de Cork?
Non, je ne le connais pas, mais il ressemble beaucoup quand même à pas mal de bouchers irlandais
c'est ça.
Que je connais.
C'est en tout cas dans cet établissement que Trish de Seine a ses habitudes. Elle nous emmène à présent chez elle dans sa maison située dans le petit village de Tourmore. C'est toujours évidemment dans la région de Cork. Et quand elle se met en cuisine pour préparer un Irish stew, vous allez voir, Trish ne triche pas.
À travers un petit peu de pluie, de ma fenêtre de là où je cuisine tout le temps, je vois tout de suite de l'herbe. Haute et verte et épaisse. Et ensuite, je vois plus loin, effectivement, la lande. Et quand il fait beau, je vois jusqu'au Sheep's Head et jusqu'au Beard derrière. Parce que nous sommes vraiment dans le bout du sud-ouest, dans le ouest du West Cork. Donc nous avons deux sortes de viande. Nous avons les os pour faire un bon bouillon bien riche. Et puis notre viande pour le ragoût lui-même. Donc, dans un premier temps, on met simplement la viande dans la casserole.
Donc ça, c'est du mouton, hein.
C'est le mouton.
C'est de l'agneau.
C'est le collier de mouton. Donc, on remplit avec le bouillon, juste à hauteur de la viande. Et on va le mettre à bouillir. Donc, on va le porter à ébullition. Je mets le couvercle. Le Irish stew, c'est vraiment une espèce de concentration de la terre d'Irlande, de l'histoire de la cuisine en Irlande, de la cuisine irlandaise. On mange du mouton, on élève du mouton. Enfin, les puristes de l'Irish stew diraient que vraiment, à part le mouton et les pommes de terre, ils ne devraient pas, et l'oignon, ils ne devraient pas avoir autre chose. Le côté frugal et le côté très simple, très terre de ces ingrédients. C'est vraiment au cœur de comment on mange et ce que l'on mange. Et aussi, c'est un plat mijoté, donc c'est un plat. Donc, là, dans ma cuisine, j'ai le range. C'est une cuisinière, mais c'est aussi elle qui chauffe la maison, donc qui fait travailler les radiateurs. Donc là, j'épluche les pommes de terre. Je vais les couper en morceaux après. Donc on a pris finalement les roosters, qui sont un petit peu plus fermes. Et ici, on aime bien les pommes de terre farineuses parce que ça absorbe bien le jus de cuisson, le beurre, les sauces.
On pourrait croire que les Irlandais aient banni la pomme de terre à tout jamais parce qu'en fin de compte, cette famine du milieu du 19e siècle, c'est suite à une maladie qui a touché la pomme de terre.
Je ne dirais pas qu'on pense à la famine à chaque fois qu'on le mange, mais évidemment, c'est le légume national de l'Irlande. On a de gros appétits et avoir assez dans son assiette... On sent quand même encore cette nécessité de savoir qu'il y a assez dans la cuisine, assez dans les placards, assez dans le frigo, que l'on a assez pour vivre. Donc là, je coupe les carottes. Je vais les couper à peu près en deux ou trois. Pas en petites rondelles. Hein. Faut garder le côté rustique jusqu'au bout. Donc là, on a fait une première cuisson de 10 minutes à peu près de l'agneau.
Donc là, vous mettez dans la casserole où se trouve déjà l'agneau, vous mettez les carottes, la pomme de terre et les oignons.
Et les oignons. Et je vais mettre moi aussi un petit peu de thym, parce que j'adore ce petit goût qui vient. Alors, il doit porter à ébullition à nouveau. À combien est le four ?
Allez, est-ce que ça rentre ? La casserole va dans le four.
Voilà, et on est parti pour 1h30, 2h.
On va manger du fromage en attendant.
Le fameux Irish Stew, ragoût d'agneau, signé Triche de Seine. La recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster, mais également dans un excellent livre que Triche de Seine a publié en... a publié en 2015, Mon Irlande, une balade culinaire en passant par Belfast, Dublin, Cork et Galway, c'est chez Hachette Cuisine. Alors, petit débat évidemment dans les familles irlandaises, ça bataille un peu dans les chaumières, on a bien vu, on l'a entendu, qu'on a eu affaire avec Triche de Seine à une version un peu libre de l'Irish Stew, c'est-à-dire avec évidemment des pommes de terre, mais également d'autres légumes comme des carottes. Est-ce que vous êtes shocked par cette initiative, Alice Quillet?
Oui, enfin c'est un débat que je connais parce que dans ma famille on en parle souvent parce que ma marraine qui est irlandaise et ma mère sont pas d'accord sur la recette du Irish Stew. Ma mère fait celle de sa grand-mère qui elle est vraiment puriste, comme Triche le disait, c'est-à-dire des oignons, des pommes de terre. Du collier d'agneau et de l'eau.
Et voilà, nothing else.
Nothing else. Alors que ma marraine, qui est du sud de l'Angleterre, parce qu'il faut préciser qu'il y a souvent une différence entre le sud et le nord dans les recettes, elle met des carottes et des poireaux.
C'est ça. Ouh là là, même des poireaux.
Ouh là là.
Parce que, donc, si je comprends bien, il y a non seulement des différences, Bernadette Byrne, entre... selon la géographie, mais également selon les familles auxquelles on appartient.
Oui, effectivement, parce que tout dépend aussi. Il y a des légumes racines en Irlande, entre autres nous, dans la région de Kildare, on mettait également des panais.
Ah,
parce que
bien.
Le panais, c'était un légume oublié jusqu'à 5 ou 10 ans en France. Mais en Irlande, les légumes racines, ça a toujours été le cas. Et
évidemment.
Donc, on mettait ce qu'on avait sous la main.
Les tubercules qui poussaient dans le jardin hindou, fumaient, flottent. Dans le studio de France Inter, et ben c'est le fumet de l'Irish Stew, puriste, s'il vous plaît, signé Alice Quillet, il est dans une assiette creuse, et j'observe que le Irish Stew, que certains pourraient considérer comme une espèce de pot-au-feu à l'irlandaise, avec évidemment de la viande d'agneau, comporte plutôt la dimension d'un ragoût avec une sauce assez épaisse, assez nappante.
Voilà, donc l'idée c'est d'utiliser des pommes de terre farineuses. Après on peut faire un mélange pommes de terre farineuses, pommes de terre à chair ferme pour avoir les deux textures.
D'accord.
Mais l'idée c'est que une fois que ça a mijoté, on a une sorte de sauce soyeuse créée par les pommes de terre qui sont désintégrées à la cuisson
et l'amidon crée ce liant.
Voilà, et qui épaississent la sauce.
Vous choisissez quelle partie de l'agneau à l'esquiller pour le faire?
Alors, à Tenbels, on fait un mélange.
Vous le cuisinez à Tenbels?
Oui, on le cuisine à Tenbels.
En voilà une bonne nouvelle.
Bien sûr,
on va venir tous les jours ou pas?
Non, pas tous les jours. En fonction de, ça change un peu toutes les semaines en fonction de ce qu'on a envie de faire.
D'accord.
Mais on a un mélange de collier et d'épaule. Mais d'ailleurs, il y en aura cette semaine si jamais il est passé. Sinon, juste du collier. Mais l'épaule donne une autre dimension, une texture un peu différente.
Êtes-vous en mesure de nous expliquer en quelques phrases les principales étapes de cette recette qu'on retrouve évidemment sur notre site internet?
Oui, c'est très simple en fait. Dans une cocotte, mettre les morceaux de collier, de l'eau, porter à ébullition, mettre les oignons, les pommes de terre, mettre le couvercle et laisser mijoter pendant 2 heures.
Ah là, c'est du rapide.
Et du sel.
D'accord.
Aussi, bien sûr.
Pendant 2 heures.
Voilà.
Et
ou jusqu'à ce qu'elle soit tendre.
Est-ce que la viande d'agneau, on la fait colorer? Est-ce qu'on la pince un
normalement,
peu avant?
Normalement, non.
D'accord.
Normalement, non.
Voilà. Ah, donc c'est directement la viande d'agneau?
Exactement.
Avec
c'est vraiment très très simple.
Et de l'eau à hauteur?
Voilà, exactement. Mais on peut, si on veut, la faire colorer pour avoir un jus un peu plus fort, voilà. Mais c'est après, chacun fait sa version du Irish Stew.
Est-ce que cette fameuse règle selon laquelle les ragoûts sont meilleurs réchauffés le lendemain s'applique également à l'Irish Stew?
Je suis totalement d'accord. Nous, on le fait au moins 2 jours avant parce qu'il faut vraiment que le stew ait le temps de trouver ses arômes et nous, en anglais, on dit get to know itself. C'est ce qu'on dit, apprendre à se connaître. Voilà, que les arômes apprennent à se connaître et se retrouvent avant d'être dégustés.
Apprendre à faire copain-copain.
Voilà, c'est ça.
J'imagine que vous le cuisinez. Ce serait une offense de vous poser la question, Bernadette Byrne. Le Irish Stew?
Oui, bien sûr.
À la maison?
Oui, à la maison, oui, ça m'arrive.
Et vous êtes plutôt pommes de terre ou vous élargissez un peu le spectre légumier?
Moi, j'élargis toujours un petit peu parce que j'ai un grand faiblesse pour, j'avoue, pour le panais. Je répète ce mot. Panais, carottes, justement, dans ces types de plats. D'ailleurs, le même que je retrouve aussi dans le bœuf braisé, la bière brune, je rajoute également.
Dans un instant, Bernadette, c'est vous qui passez aussi à la casserole avec un bœuf à la Guinness? Que vous allez nous expliquer, mais juste avant, le fabuleux destin d'une cuisinière irlandaise avec Esther El Payani.
On va déguster.
I try just to find the best recipes for the sort of food I've got to hand. And I hope it's a sort of modern Irish kind of cooking. I don't know what you call it, really.
Cette voix, c'est celle de Myrtle Allen, à laquelle on va tous souhaiter un happy birthday, puisqu'elle fête demain ses 94 ans.
Non.
Et oui, ça tombe à pic. Myrtle Allen, c'est la grand-mère de tous les chefs irlandais actuels, la Paul Bocuse de Lille, un vrai trésor national. Parce que maintenant que l'Irlande est réputée pour la qualité de ses fromages, de sa viande et de tous ses produits, c'est bien à elle qu'elle le doit. Parce que la cuisine irlandaise, ça revient de très très loin.
Attendez, elle n'avait quand même pas pire réputation que la cuisine des voisins anglais, non ?
Je vous laisse juger. Le drame de la cuisine irlandaise, ce n'est pas d'être mauvaise, c'est que les Irlandais persistent à croire qu'elle est très bonne.
Ouh, c'est méchant ça.
Ça, c'est signé Go et Mio dans le guide Julliard de l'Irlande en 1969, décrivant des repas à base de roast beef gris, de choux et de patates bouillies plein d'eau.
C'est ce qui s'appelle l'arrogance française en fait.
Ouais, certainement.
Qu'a donc fait Myrtle Allen pour sauver la cuisine irlandaise alors ?
Elle s'est intéressée aux produits. Ça nous semble tellement commun aujourd'hui, mais dans les années 60, c'était totalement révolutionnaire. D'autant plus que rien ne l'a prédestinée à avoir autant d'influence. C'était juste une fille d'architecte née à Cork qui a épousé Ivan Allen en 43. Le matin de leur noces, d'ailleurs, c'est même lui qui a préparé les œufs brouillés parce qu'elle n'avait jamais touché une casserole. Comme son mari était horticulteur, ils ont jeté leur dévolu sur une ferme décrépite du XVIIe siècle en rase campagne, à 30 minutes de Cork, nommée Ballymaloe.
Ballymaloe.
Tout y est à refaire. Ivan fait pousser ses fruits et ses légumes sur 120 hectares, pendant que Myrtle se constitue une bibliothèque culinaire et prend quelques cours de cuisine. Enfin, quand ses six enfants lui en laissent le loisir, quand
même. Oui, parce qu'il y avait quand même donc des bouches à nourrir.
Oui, d'ailleurs, quand elle transforme sa salle à manger en restaurant en 64, ils sont un peu étonnés parce qu'elle y sert exactement la même cuisine que ce qu'elle leur fait à eux. Comme elle disait, j'ai juste cherché à faire les meilleurs plats avec ce que faisait pousser mon mari. Le menu y était écrit à la main, en anglais, et ça manquait pas d'air à l'époque.
Vous écrivez comment R ?
À une époque où les restaurants chics utiliser uniquement des intitulés français. Elle indique aussi la provenance des ingrédients, comme le poisson pêché à Ballycotton sur la côte, qui arrive à 18h30 alors que les clients arrivent à 19h. Et elle se met en quête des meilleurs produits de la région, mettant notamment en avant les fromages qui renaissent au même moment. Simplicité, authenticité, produits frais et locaux, les guides adorent, elle décroche une étoile Michelin en 75 en ayant cassé les codes l'air de rien, et surtout, elle l'a fait avant tout le monde.
Étonnant que son nom du coup ne soit connu finalement que dans les frontières de son propre pays, pas tellement à l'extérieur de l'Irlande.
Et pourtant, elle a été en France, elle a eu un restaurant à Paris, place du marché Saint-Honoré, qui s'appelait la Ferme Irlandaise en 1981.
Bernadette, tout d'un coup, un énorme sourire jusqu'au temps, vous avez l'air de vous en souvenir ?
Oui, parce que moi j'ai mangé là plusieurs fois et c'était juste un régal, c'était fabuleux.
Il paraît qu'elle ramenait les ingrédients dans sa valise en fait, qu'elle faisait, il y avait tout un trafic franco-irlandais. Elle était aussi cofondatrice et présidente d'une association de chefs Eurotoc. Aujourd'hui, maintenant, quand on dit Myrtle Allen, c'est surtout Ballymaloe qui vient à l'esprit.
Oui.
C'est devenu une école de cuisine très réputée. Une exploitation 100% bio, un endroit unique qui réunit l'agriculture et la cuisine, spécialisée en alimentation durable. Mais celles qui ont pris la suite, c'est Darina Allen, sa belle-fille, pionnière de soufflou en Irlande, et Rachel Allen, qui est elle-même la belle-fille de Darina. Et l'histoire continue.
Et justement, je vous propose à ce titre de retrouver un reportage bonus de Stéphane Combe qui est allé tendre son micro aux élèves et aux professeurs de cette école. Elle s'appelle Cooking School, je crois.
Ballymaloe Cooking School.
Fondée effectivement par la belle-fille de Myrtle Allen, c'est...
Darina.
Darina, absolument. Les recettes cultes de Myrtle.
Bah, tout simplement, c'est vraiment les recettes traditionnelles classiques de la soupe de champignons, des pailles, des puddings, des Christmas puddings, on disait. Tout ça, on le retrouve dans le Ballymaloe Cookbook, sorti en 84, et qu'on trouve dans toutes les cuisines irlandaises, je crois. Et parce que c'est bien plus que des recettes, c'est plein de petites anecdotes, comme le fait que le goût du beurre change en fonction du champ où on broutait les vaches.
Ah.
Hein, ici, ça tombe bien, on a du pain, du beurre, du fromage. J'ai pensé qu'il allait manquer des pickles pour aller avec tout ce Sunday cold buffet.
Parce que les pickles sont aussi irlandais, évidemment.
Évidemment. Alors, c'est un peu tôt pour les concombres quand même. Chez nous, j'avoue, j'ai fait une entorse à mon approvisionnement traditionnel.
Il vaut mieux attendre la saison des concombres.
Voilà, oui. Quand vous en aurez plein le jardin, pensez à nous avec cette recette de Myrtle. Tout simplement, vous allez émincer un concombre très fin en gardant bien sa peau. En gros, 300 grammes. Avec un petit oignon, 80 grammes. Dans un saladier à côté, vous mélangez 150 ml de vinaigre de cidre. 150 ml de vinaigre de cidre avec 80 g de sucre en poudre. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez sucré. Une demi-cuillère de sel. Et vous mélangez, vous laissez ça 3 heures au frigo. et c'est prêt. Et là, moi j'en ai fait un bocal pour manger toute la semaine avec les viandes froides, les sandwichs, tout ce qu'on veut.
C'est... Franchement, c'est merveilleux.
Bah, c'est Myrtle Verrier, on va dire.
Avec ce petit côté sour, mais en même temps aigre doux. Y a vraiment la petite note sucrée qui ressort, l'acidité qui pince, c'est très bien.
Simple et bon.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alice Quillet ?
Moi, j'adore ces pickles-là. On en fait beaucoup à Ten Bells aussi. Et vous parliez du livre de Ballymaloe. Nous, on l'a aussi. On s'en sert souvent quand on cherche un truc un peu classique. Et notre Christmas cake à Noël vient du livre de recettes de Darina Allen. C'est vraiment pour nous une petite bible de la cuisine traditionnelle.
Très belle initiative. On retrouve évidemment votre recette de pickles
sur le site dont on va déguster.
Très bien, on retrouve également le lien vers une initiative très importante et très intéressante puisqu'on parle de femmes au fourneau, ou plutôt de femmes chefs. E2FES. Vous avez publié avec Télérama cette semaine une carte répertoriant les femmes chefs de France, Estherel.
Oui, on a travaillé avec Vérane Frediani, qui est la réalisatrice de la recherche des femmes chefs, pour savoir où on trouvait justement toutes ces chefs en France, y compris celles de Ten Bell Breads qui sont sur la carte.
Alice Quillet, bien sûr.
On en a repéré et plus Anna. De 370 depuis la publication de la carte. On est passé à 400. Et d'ailleurs, comme on ne réussira jamais à être exhaustif, j'en profite pour demander si des chefs ou des fidèles de table de chefs au féminin écoutent, qu'ils n'hésitent surtout pas à se signaler ou à nous informer par mail. info@femmeschef.com pour savoir où elles sont et les ajouter.
Très bien, et ben en voilà une belle initiative à retrouver sur telerama.fr. Merci beaucoup. En parlant de petits condiments légèrement aigre-doux, qui picotent, qui excitent les papilles, vous nous avez apporté un petit souvenir qui fait vraiment un tabac auprès de ceux qui le goûte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet. On va d'ailleurs faire une petite expérience avec votre voisin Bernadette Byrne qui s'appelle Jérôme Gagnez. Il vous tend. Ah, on va pas dire que c'est du ketchup.
Alors, écoutez, on revient toujours dans la même famille. Donc, Myrtle Allen, elle a vraiment tout fait. C'est une recette aussi qu'elle avait fait pour sa famille il y a très longtemps. Et donc, c'est devenu vraiment le ketchup, on va dire, irlandais. Donc, ça s'appelle Ballymaloe Relish.
Oui.
Et j'avoue que chaque fois que je fais goûter
est-ce
ça...
Est-ce que ça a un rapport avec ce dont vient de... Ce dont...
Complètement. Parce que c'était la recette de Myrtle Allen.
Elle est partout.
La vie est bien faite.
Voilà.
Donc c'était la recette de Myrtle Allen.
C'est la recette de Myrtle Allen.
Qui se retrouve dans un pot.
Exactement.
Très bien.
Exactement. Et donc, j'avoue que chaque fois que je reviens d'Irlande, c'est toujours les valises pleines de Ballymaloe Relish pour les amis de mes fils, qui chaque fois qu'ils ont goûté, ils ont adopté. Donc maintenant,
et pour vos amis, on va déguster. Et en l'occurrence, celui qui a la bouche pleine et qui est en train de goûter ça, c'est Jérôme Gagnez. Est-ce que c'est à votre goût ce... On va... Oh. Quel ravageur.
C'est trop sucré pour moi.
Ah oui. Oui, mais c'est vrai que vous avez un problème avec le sucre dans le salé.
J'aime bien, il y a de l'acidité, on sent bien le vinaigre, mais le sucre est un peu trop présent pour moi.
D'accord.
J'aime les arômes, alors franchement, c'est vraiment joli, hein, mais il y a trop de sucre pour mon goût.
D'accord. Et Estherel, vous voulez goûter ? Non ?
Mais moi, j'adore le ketchup. J'ai une passion terrible pour ce produit et le relish en général.
Oui.
Quand même, je me dis, Myrtle Allen, c'était à la fois Paul Bocuse et Ginette Mathieu quand même.
Oui.
Elle a réussi à combiner les deux. Hein.
Comme il est galant, il apporte une petite tartine de Ballymaloe à Estherel.
Ah, c'est pas épicé en fait, c'est étonnant. On s'attend à voir le côté épicé du ketchup, il y a pas
tu
du
l'as
tout.
Un petit peu en bouche le côté
mais à la
épicé.
Fin. Et ouais. Puis un peu la texture de la peau.
Alice, super. Vous aimez ou pas ?
Moi j'adore, j'en ramène dans mes valises aussi.
Vous en rapportez, mais ça veut dire qu'il n'est pas en vente en France ?
Non.
Pourquoi ?
Parce qu'apparemment ça plaît pas trop aux Français qui sont sur le plateau.
Ah bah, oui, parce que Jérôme Gagnez.
Mais si je peux me permettre, dans un sandwich au bacon, c'est vraiment le condiment parfait.
Très bien, voilà. Eh bien, écoutez, on va tous se ruer sur le Ballymaloe. Merci en tout cas Bernadette de nous en avoir apporté. Ballymaloe qui pourrait se relish, accompagner éventuellement la viande, puisque l'Irlande, avec son climat pluvieux, ses landes vertes et ses herbes grasses, est tout à fait propice à l'élevage de la viande. Mais un élevage, vous tenez à le souligner évidemment, et vous savez qu'au sein dont on va déguster, on est bien entendu attaché à ses valeurs écologiques. C'est la plupart du temps, vraiment, sauf petites exceptions, un pays d'élevage extensif, donc durable. Vous confirmez ?
Ah oui, complètement. Oui. L'Irlande, comme je vous ai dit, c'est des 80% des terres agricoles en Irlande, ce sont des pâturages. Mm-hmm. Et l'Irlande a une production de viande qui dépasse largement le nombre d'habitants. D'ailleurs, 90% de notre production est exportée, donc à travers le monde.
Et notamment beaucoup en France ?
Et notamment pas mal en France aussi. Oui, c'est un partenaire fidèle de l'Irlande depuis de très longues années, puisque justement, comme on partage beaucoup avec les Français le goût de la gastronomie, de produits d'excellence, il est clair que pour quand ils cherchaient justement un produit qui démarquait un tout petit peu de ce qu'ils avaient déjà en France, nous on est dans la production des bœufs et des génisses.
Oui.
C'est des animaux qui sont plus petits, c'est des plus petits gabarits.
Quelle race ?
Comment ?
Quelle race ?
Quelle race ? On fait beaucoup de races croisées en Irlande.
D'accord.
Donc, croisées, on utilise nos races à nous, de l'Angus aussi, l'Hereford, de l'anciennement, les Kerry Blue, croisées avec les races françaises.
Ah.
Ça, c'était un moment donc, pour avoir plus de conformité, plus de poids.
Uh-huh.
Et finalement, depuis les années 2000, on est revenu maintenant sur l'Angus irlandais et l'Hereford irlandais, puisqu'il y a un côté gustatif qui est vraiment excellent, avec un persillage aussi dans les muscles. Et comme tout le monde sait, finalement, c'est le gras qui donne le goût aussi à la viande. Donc,
et ces animaux sont nourris à l'herbe.
Sont nourris à l'herbe. C'est vraiment ce qui est le plus simple en Irlande. On a cette facilité de nourrir nos animaux extensivement. Et c'est fait aussi dans le respect de l'environnement et dans le cadre d'un programme de développement durable qui est en Irlande maintenant depuis 2012 et qui s'appelle Origin Green.
Très bien, eh ben écoutez, c'est parfait. Vive la viande irlandaise. Vous la pratiquez ou pas la viande irlandaise, Alice Killier ?
Non.
Pourquoi ?
Parce qu'on a tendance à s'approvisionner en France
vous
et autour
raison.
De la France.
Ben, oui, non, enfin, vous avez de raison. Paris. Moi, je ne veux pas entrer dans le débat, mais c'est vrai que évidemment, se tourner vers des ressources locales, c'est encore ce qu'il y a de mieux en termes de réflexe.
Avec toutes ces viandes, on a des auditeurs qui nous signalent, comme Rosie à Rennes, que ce qui va bien avec tous ces plats mijotés, c'est le col canon. Un plat fait avec de la pomme de terre, de l'ail nouveau, du chou, dit-elle.
Oui.
Et puis, elle parle du champ aussi. Purée de pommes de terre, d'œufs et d'oignons nouveaux. Je ne sais pas si nos invités ont des spécialités à ce sujet.
Oui.
Col canon, champ.
Oui, col canon, champ, c'est encore... On revient toujours dans des recettes à base de pommes de terre. Hein. Donc le col canon, c'est plutôt fait avec les pommes de terre, avec le chou, du beurre, beaucoup de beurre. Mais le chou, on peut le remplacer aussi avec le kale. Et après, quand on revient sur les autres, comme le champ, là, on est plutôt dans les oignons nouveaux. Mais toujours avec du beurre, du lait, voilà. Donc on reste vraiment axé sur les produits de qualité et de base en Irlande.
Qui pourrait accompagner votre bœuf à la Guinness ?
Complètement.
C'est vraiment le plat de la Saint-Patrick ?
Pour moi, oui, c'est vraiment le plat de la Saint-Patrick. Mais moi, je suis très portée sur le bœuf, j'avoue.
Ah, j'ai cru que vous disiez que vous étiez très portée sur la Guinness. aussi. La Guinness, rappelons quand même, hein, définition de la Guinness, parce que c'est vrai que c'est désormais une marque mondialement connue. C'est quand même un grand emblème alimentaire de l'Irlande. C'est une bière brune.
C'est une bière brune. Enfin, il n'y a pas aussi, je vous rassure, que la Guinness en Irlande. Il y a plein maintenant. Il y a une
on va le voir dans
explosion,
un instant, d'ailleurs.
Justement des brasseries artisanales en Irlande. Tout le monde fait leur porter, c'est l'autre mot de bière brune aussi, le porter.
C'est pas stout
bière, stout, oui, il y a les deux.
D'accord.
Il y a les deux. Mais bon, ça c'est quand on fait comme une genre de carbonade avec la viande, la tendreté est là déjà, mais bon, ça permet quand même à donner ce petit goût un petit peu légèrement amer,
oui.
Qui rehausse aussi.
Parce que la Guinness, effectivement, a un profil aromatique qui verse du côté du café, du cacao, des notes un peu caramélisées, légèrement amères et en même temps douce amère. Hein, c'est
oui,
aussi,
douce amère.
C'est aussi suave. Et le résultat dans la... Alors malheureusement, vous ne nous avez pas apporté la recette. Vous n'avez pas osé.
Vraiment désolé.
Alors que je suis sûr qu'elle est bonne, votre recette qu'on retrouve sur franceinter.fr à la page On va déguster. Mais on va dire que c'est un peu l'équivalent d'un bœuf bourguignon en remplaçant le vin rouge par de la Guinness ou c'est caricatural ?
Oui, non, mais c'est pas vraiment caricatural. En fait, c'est pareil, les aliments sont relativement simples. Il y a les oignons, les carottes, purée de tomates, le bœuf. Moi, je préconise toujours le paleron. Parce que le paleron, c'est vraiment un morceau qui est excellent et qui répond super bien quand même à une cuisson plus lente. La Guinness, le thym, laurier et l'assaisonnement et la farine.
Et la cuisson, combien de temps ?
Oh, la cuisson, vous pouvez le faire deux heures et demie. C'est
plus c'est long, plus c'est bon.
Voilà, exactement. C'est un de ces plats aussi qui c'est mieux même réchauffé. C'est toujours un régal quand ça sort vraiment, quand c'est servi. Mais le surlendemain, s'il reste pour le surlendemain, c'est encore meilleur.
J'ai très envie d'essayer un bœuf à la Guinness à la maison. Ça m'attire beaucoup. Le bœuf à la Guinness, signé Bernadette Byrne. Et la Guinness intervient également en dessert. C'est possible avec Alice Killier.
Oui, alors nous, à Tenbels, on fait un gâteau au chocolat à la Guinness.
Oh là là, la bonne idée.
Et d'ailleurs, il circule.
Ah non, il est bien, bien noir, bien goudronneux.
Oui, et en fait, la Guinness donne une texture vraiment très légère à ce gâteau au chocolat. Et comme vous l'avez cité, c'est pareil pour les arômes. Ça arrondit un peu l'amertume du chocolat. Ça a ce côté un petit peu café.
Oh là là, la dinguerie.
C'est délicieux et c'est très facile aussi. Ouais.
C'est énorme.
Ah oui, c'est très bon.
Monsieur qui n'aime pas trop le sucre, ça va en dessert?
Ouais, moi, c'est ça.
Parfait.
Je l'ai suffisamment dû, le sucre au dessert, bien sûr.
Estherelle.
Oh, avec le petit glaçage là, c'est du lait, pas lourd du tout.
Le moelleux.
Incroyable.
Voilà. Ça, c'est la bière. Le moelleux, c'est la bière.
Ça, c'est grandiose.
Ouais. On a envie de s'y lever dedans. C'est confortable.
Vous savez que vous allez.
Ouais,
c'est
tout, là.
Non, mais c'est une espèce de pouf dans le salon, vous savez.
Ouais, exactement.
Vous êtes fatigué, vous rentrez du bureau et vous vous avachissez. Et bien, c'est ça. Voilà. Avec toute la dimension aromatique sous le palais en plus. C'est remarquable, Bernadette, vous aimez?
Ah oui, c'est très bon, mais je connaissais déjà, j'avoue.
Je prédis à Alice qui est et votre co-chef, pilote, co-chef, voilà, dont vous nous rappelez le nom.
Anna Trattles, qui aujourd'hui a fait le Irish Stew et le Chocolate Guinness Cake.
Bravo Anna, elle est présente dans le studio dont on va déguster. Je prédis à votre recette collective un immense succès auprès de nos auditeurs. Allez-y, hein, franco dans cette recette.
Les yeux fermés.
Envoyez-nous vos réactions, chers amis, derrière votre poste. Vous ne serez pas déçus, c'est absolument garanti à condition de trouver de la Guinness, mais ça tombe bien, il y en a dans tous les supermarchés. Par contre, des bières qu'on trouve relativement plus difficilement, ça a été le job, l'enquête de Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Jérôme, tu parles avec sa voisine tranquillement alors que c'est à lui.
Je suis absolument désolé, patron, je vous promets de ne jamais recommencer. Oui, alors, petite enquête, effectivement, il s'agissait de trouver des bières qui ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attend en premier lieu lorsqu'on parle de l'Irlande, à savoir Kilkenny, Murphy's et autres Guinness. Je reviens pas sur l'engouement général sur la bière. L'ami Antoine Gerbel en a parlé très bien la semaine dernière. Petite précision, petit glossaire avant de vous parler des bières que j'ai trouvé. La première chose, on va parler de bières de fermentation haute, de fermentation basse. Les bières de fermentation haute sont des bières qui sont fermentées entre 15 et 24 degrés. Avec donc des levures qui supportent ce type de température, ça va donner des bières qui sont un petit peu plus alcoolisées, qui sont un petit peu plus sur les amers, qui sont un peu plus puissantes, un peu plus riches que les bières de fermentation basse. Mm-hmm. Les bières de fermentation basse, ça regroupe en gros les Kölsch, les Pils, les Lagers, alors que les bières de fermentation haute, ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont la grande famille des Ales. Alors qu'est-ce que les Ales ? Eh bien, ce sont précisément ces bières de fermentation haute. Et dans la famille des Ales, une très connue, représentée notamment par Guinness, mais pas que, évidemment, qui sont les Porter Stout.
Voilà. Donc, deux noms associés,
oui, ça se met aussi. Les deux s'écrivent aussi. Stout tout court, Porter aussi. C'était au départ une bière qui a été faite à Londres, mm-hmm, au XVIIIe siècle. Et Arthur Guinness va commencer, lui, le premier en Irlande, à brasser de la Porter.
Très bien.
Il va un petit peu adapter la recette avec ses ingrédients locaux et sa façon de faire. Et en fait, ce qui donne cette couleur très sombre qu'on voit comme noir, mais qu'en réalité, quand on regarde bien à la lumière, c'est rouge très foncé, c'est le fait de d'orge maltée,
oui,
très maltée, très grillée. Et c'est en fait cette orge très grillée qui va donner cette couleur très foncée, qui va apporter ces amers, cette amertume, très très typique des porteurs. Et ce sont des bières que j'aime beaucoup parce que, justement, il y a de la franchise de goût, il y a une franchise d'expression sur ces amers qui sont très marqués.
Il y a aussi de la matière dans les textures, c'est presque des bières à manger.
Mais c'était précisément aussi fait pour ça. C'était des bières qui étaient brassées parce que ça nourrissait. Il y avait du pain et de la bière et au fond, l'affaire était entendue.
C'était le pain irlandais finalement, c'était des soupes de céréales.
Oui, non, mais c'est exactement
ça. On parle d'un déjeuner liquide.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et du reste, il suffit pour s'en convaincre de boire un demi-litre litres, ce qui n'est pas beaucoup, parce que ce ne sont pas des bières qui sont très alcoolisées.
Il est formidable, Jean-Michel.
Ce ne sont pas des bières très alcoolisées, ça fait à peu près le degré d'alcool d'un cidre, hein, donc il ne faut pas non plus
3%.
Se tromper. Non, 4, enfin, entre 4,5 et 5,5, c'est un cidre brut. Hein,
allez,
c'est
ce petite pinte.
Et donc, ce n'est pas grand-chose, ça fait juste un joli ventre un peu arrondi, quand on en boit beaucoup, mais surtout, c'est effectivement très nourrissant, c'est puissant, c'est assez ample, et ce sont des bières qui sont intéressantes, et on est assez loin. À cet égard, Guinness, quand même, il faut le dire, parce qu'on est souvent les premiers à gueuler sur l'industrie en disant que c'est plutôt assez moyen ce qu'ils font. Il faut reconnaître que Guinness s'en sort plutôt assez bien dans le style, parce que franchement, la bière, elle a encore du caractère, elle est assez fidèle à ses origines. On est très très loin, très loin, des très mauvaises bières belges d'abbaye qui sont maintenant totalement industrielles et qui sont franchement imbuvables. C'est des espèces de concentrés.
Vous avez des
arômes.
Non, je plaisante. Non, surtout pas. C'est bon.
Ah si, on peut en donner. Non, on peut pas donner
non,
de
ça
nom.
Va.
Ah bon, d'accord.
Enfin, vous c'est,
ça
vous
commence par un L, ça finit par un E. Et donc là, au contraire, j'ai trouvé des bières. Alors, je suis allé dans une boutique à Paris qui s'appelle Paris Saint-Bière,
oui.
Qui est rue de Charonne. Et alors, ce caviste à bière qui est très ancien, c'est un des tout premiers qui a ouvert à Paris. Il est 101 rue de Charonne, dans le 11e. Alors, désolé pour nos amis de province, mais je n'ai pas trouvé et je n'ai pas eu de réponse de la part de la brasserie, notamment dont je vais parler, pour savoir s'il y avait un importateur en France. Donc, j'imagine que oui, puisque je l'ai trouvé à Paris, mais où on pouvait trouver ces bières d'une façon plus générale sur le territoire français. Donc, on va rester un petit peu parisien cette fois-ci pour parler d'une bière qui s'appelle Porter House, ça c'est le nom de la brasserie, et j'ai trouvé là deux bières que j'ai bien aimées, une qui paraît très particulière et très originale, qui est absolument délicieuse parce que très fine et très élégante, c'est Oyster Stout. Et donc tous nos amis, nos
oyster,
auditeurs,
oyster,
exactement, huîtres, et en fait c'est une bière qui est brassée avec des huîtres fraîches.
Non, mais vous voulez rien?
Non.
Est-ce qu'on peut goûter ça?
Eh ben vous l'avez dans votre verre, François Régis.
C'est cette petite finale saline qui...
Exactement, et en fait ça a apporté dans la bière, au-delà, et ça n'a pas apporté en fait un côté huître très iodé, simplement un caractère un peu salin.
Maintenant qu'il le dit.
Mais c'est très fin, et c'est...
Enrichi en calcium.
Oui, c'est ça.
Je suis assez d'accord avec vous, Estherel, ça n'est pas très puissant, c'est ce que je craignais, c'est que ce soit trop puissant, ça donne une stout d'une délicatesse et d'un caractère très digeste absolument formidable. On passe très vite à une autre, c'est la Red Ale, toujours Porter House. Donc là, c'est une ale, c'est une rousse. On va avoir des amers plus marqués, une bière un petit peu plus puissante. Et ce sont des bières qui sont admirables avec les fromages que nous avons, avec l'Irish Stew que nous avions, la Porter Oyster. Aurait été très bien avec votre bœuf à la Guinness, cher Bernadette.
Vous confirmez, Alice Quillet, qu'il y a un élan comme ça des craft beers, c'est-à-dire ces bières artisanales dans des microbrasseries un peu partout en Irlande?
Un peu partout en Irlande, un peu partout dans tous les pays en fait. Mais oui, en Irlande, beaucoup de jeunes qui se tournent justement vers des métiers comme ça, font des microbreweries comme celle-ci.
Actuellement, on est plus d'une centaine en fait en Irlande, des microbrasseries.
Parfait. Ben écoutez, il reste plus qu'à ce qu'on les trouve un peu plus facilement en France. Une toute petite réaction d'auditeur.
On a Pierre d'Aix-en-Provence qui nous évoque avec grande émotion le coddle, la marmite dublinoise qu'il mangeait pour son petit déjeuner.
Ah, on opine du chef sur le plateau d'On va déguster. Vous connaissez coddle, C-O-D-L-E.
Voilà, c'est le Dublin coddle, je crois.
Oui.
Et c'est du bacon, de la saucisse et de la pomme de terre.
Très bien, ben écoutez, on n'a pas pu tout évoquer malheureusement, difficile d'être exhaustif en ce qui concerne la cuisine irlandaise. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues nous en parler.
Merci.
Alice Quillet à la tête avec vos deux autres associés de Ten Bells Bread, boulangerie, coffee shop, cantine, vous nous rappelez l'adresse?
17 rue Breguet dans le 11e.
Et il y aura de l'Irish Stew?
Cette semaine,
c'est une excellente nouvelle. Bernadette Byrne, merci d'avoir fait la promotion de votre île natale. Je donne l'adresse du site Bordbia.
Oui, alors c'est bordbia.ie ou si vous voulez savoir plus sur le bœuf, c'est boeuf-irlandais.fr.
Très bien, et ben écoutez, merci beaucoup. On ira voir pour se renseigner sur les produits du terroir irlandais. Dimanche prochain, on va déguster Dresse le couvert au Salon du Livre de Paris et pour la première fois, tous les chroniqueurs et chroniqueuses seront en plateau et en direct, en public, pour parler livres de cuisine et actualité de la gastronomie. Et l'émission sera suivie d'un apéro dédicace. Pour notre livre, on va déguster la France. Et puis je signale à nos auditeurs nantais que je serai à Nantes mardi, je dédicacerai notre livre à la librairie Durance à 17h. Merci à tous et à dimanche prochain si vous avez encore faim.